Jean-Luc, ça fait longtemps que je te connais maintenant. Je t'avais rencontré au moment de la parution du tome 1 des Manges Rêves. Nous en sommes au tome 3 et 4 qui s'intitule Tombe Mort. Et quand j'avais quitté Tombe Mort, enfin les Manges Rêves, on va dire au tome 2, nos amis Iwan, Thibaut et Mélanie, ainsi que leur grand-père, enfin le grand-père d'Iwan en tout cas, et son ami Jack, étaient plutôt en fâcheuse posture sur le Seagull. Là, on les retrouve bien évidemment au même moment. Les choses s'annoncent assez mal pour eux, sont un peu noires, mais on va trouver des moments d'éclaircie aussi à l'intérieur de ce livre.
Bah oui, notamment d'éclaircie, d'espoir et de menaces de rébellion, c'est surtout ce qui m'intéresse. En cet endroit qui est Taïfa qui est une ville que les ados ont prise, mais des ados un petit peu de multe obédience, de couleurs différentes, il n'y a plus de différence entre les... En fait, je pense que c'est un peu l'image que de paix qu'on voudrait voir se développer maintenant, alors que c'est plutôt le contraire qui se passe. Et donc les ados ont pris la main là-dessus et ils ont pris une ville. Et tous les adultes qui n'ont pas voulu marcher dans ce nouveau type de fonctionnement qu'ils sont en train de mettre en place, ils les ont éjectés. Ils sont notamment en train de mettre en place un nouveau système Internet qui sera plus surveillé par le gouvernement, parce que le gouvernement colle sur ce qui est fait pour pouvoir le court-circuiter, le pirater, et donc le but c'est de prendre de l'avance sur ces gens-là.
Toi aussi finalement tu avais pris un petit peu d'avance sur l'actualité quand tu avais commencé à écrire Les Manges Rêves, c'est-à-dire que tu t'étais appuyé sur l'actualité, mais c'était une œuvre de fiction. On mangeait les rêves, d'accord, mais c'était pour réussir à... Enfin, toi, tu avais écrit, en tout cas, pour justement promouvoir le rêve. Et maintenant, on a l'impression que cette réalité que tu avais presque prévue, que tu avais presque anticipée, est en train... Notre réalité est en train de tourner au cauchemar. Et peut-être que c'est une bouée de secours, un peu, ces livres.
Oui, effectivement. Là, tous les clignotants, au niveau culturel, au niveau politique, au niveau social, sont carrément au rouge. On était à l'orange encore quand j'ai écrit le premier tome. J'y croyais pas vraiment. Et il y a pas mal de gens qui me disent qu'effectivement... Le récit se situe en 2024. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'effectivement, je me suis fait rattraper par ce qui se passe en ce moment, par l'actualité culturelle, sociale et politique. Malheureusement, je crois que c'est vrai. Donc, je serai jamais prophète, mais quelque part... mais quelque part, si j'arrive à... par mes bouquins, par cette série des Manges Rêves, à tirer... Mais je m'aperçois, en fait, quand on a des conférences ou des tables rondes sur des salons ou dans plein d'endroits, que je ne suis pas le seul à penser ce que je pense. Et ça me réjouit quand même de voir que les gens... Bon, c'est vrai qu'on a tendance à croire que beaucoup de gens s'endorment, c'est un peu le syndrome de la grenouille qu'on a mis dans une casserole d'eau froide et qu'on a fait chauffer tranquillement. Et quand elle va se réveiller, parce que ça sera trop chaud, elle va crever dedans, on ne va pas avoir le culot ni le courage de sauter. Je pense qu'on en est là. Et moi, je pense aussi qu'on n'est pas encore assez au fond pour que les gens réagissent. Il y a plein de choses là qui sont en train de se passer en ce moment et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Que moi, j'ai l'impression que vraiment que nos grands-parents et arrière-grands-parents sont battus pour avoir la sécu, sont battus pour avoir des retraites, sont battus pour avoir les acquis sociaux. Et là, on nous les pique et puis tout le monde s'en fout. Et à la rigueur, on jalouse ceux qui en ont encore. Et c'est exactement ce qu'attendent les Manges Rêves.
Ce que j'aime bien avec Taïfa, c'est qu'on est dans une ville d'ados, reprise par les ados, qui inverse un petit peu, en tout cas qui savent réutiliser bien ce qui pour le moment était tourné contre eux, notamment la vidéosurveillance. Et c'est aussi, tu l'as dit tout à l'heure, des jeunes de toutes les couleurs qui viennent de partout et qui s'en foutent de savoir de quelle religion on est, quelles sont les croyances qu'on a, parce que finalement on est là pour se construire des croyances ensemble, des croyances communes, des croyances nouvelles.
Ouais, complètement, on s'en fiche complètement. Ils en ont rien à cirer de leur couleur de peau, de la différence, de ce qu'il y a entre l'un et l'autre, d'ailleurs des différences d'âge non plus, parce qu'il y a des plus jeunes qui ont été abandonnés par leurs parents ou dont les parents ont été pris dans des rafles qui ont été recueillis par des plus grands. Il reste un responsable à l'hôpital parce que l'hôpital a été saccagé complètement pour pas qu'on puisse soigner les gens. Les gens qui sont là comme médecins transmettent leur savoir non plus en faisant passer des examens et des concours, mais en transmettant directement, en expliquant à quelqu'un. Et c'est vrai que moi je crois vachement en ça, quoi. Combien sont les grands-parents qui ont expliqué des choses aux jeunes et que les jeunes ont su faire en les regardant, en écoutant leurs explications? Est-ce qu'on a besoin d'un master 2 pour faire boulanger? Est-ce qu'on a besoin d'un master 2 pour être écrivain? Là, on arrive au scandale, quoi. Le master 2 qui va faire, par exemple, qui va mettre des profs prochainement dans des classes sans aucune formation, alors qu'on aura supprimé les UFM, on va balancer des profs. Et à mon avis, il n'y a plus que de France Télécom par où on va sauter par les fenêtres. À mon avis, dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir des gros, gros, gros problèmes dans l'enseignement. Alors l'idée, quand on se retrouve aussi à Taïfa, c'est que cet enseignement s'est transformé en télé-enseignement. C'est-à-dire qu'il y a un prof qui va donner un cours virtuel à 150 000 ou 250 000 ou 1 million d'élèves qui seront peinards chez eux. Alors ils seront peinards chez eux, ça veut dire ils sont derrière leur ordi. T'as compris, t'as pas compris, c'est pas le problème du prof, parce que de toute façon il pourra pas te parler, tu pourras pas t'adresser à lui. Mais en tout cas, il sera plus question de rébellion dans les rues et de manifestation avec les jeunes qui sont au collège ou au lycée, parce que de toute façon tout le monde sera dans sa petite bulle bien individualisée. Et voilà quoi.
Ce que j'aime bien aussi, c'est que les ados qu'on a dans Taïfa sont des ados qui réclament non seulement d'être, enfin ils vivent en autarcie, ils ont une autonomie même difficile malgré eux, mais ce qu'ils réclament aussi, c'est leur part de responsabilité. C'est-à-dire que ceux qui viendraient juste pour se shooter, pour faire la fête ou pour simplement être dans des délires, ils n'ont pas vraiment leur place. On les jette pas, mais on leur fait comprendre que c'est pas ça, quoi, être un adolescent et puis essayer d'être un peu responsable. On peut aussi être adolescent et responsable.
Ouais, complètement. Mais attention, je me pose absolument pas comme moraliste, parce que j'ai pas toujours été clair quand j'étais moi-même ado. Mais je veux dire que même si on a fait des conneries, effectivement, on peut s'en sortir en écoutant parfois les autres. Et c'est vrai qu'on a dans Taïfa, on a le choix. C'est-à-dire que soit on se plie à la règle commune, qui est une règle tout à fait, je dirais, pratiquement libertaire. Finalement, il y a une sensation de liberté dans Taïfa, mais il y a quand même des limites qui ont été fixées par les ados eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus des adultes qui leur ont, des adultes bien pensants, tu sais, ces gens qui disent toujours fais ce que je te dis mais fais pas ce que je fais, qui croient toujours les grands penseurs et les grands démonstrateurs et qui font eux-mêmes les âneries qui représentent, ou qui font pire, bien pire, on le voit en ce moment. Mais là on est libre, c'est-à-dire t'adhères, tu restes, t'adhères pas, tu peux partir. Mais de toute façon, si t'adhères pas, de manière à justement ne pas provoquer des réactions des miliciens, parce qu'en fait les miliciens n'attendent que ça. Si on apprend que dans Taïfa il y a de la drogue, il y a des tas de trucs comme ça qui se passent, ça va leur donner une raison de plus de venir y mettre leur nez. Et donc c'est un peu pour expliquer aussi aux ados que à chaque fois qu'ils font une connerie, les flics contre lesquels ils gueulent, ils leur donnent à manger.
En face de Taïfa, il y a quand même Ton Mort, puisque c'est le titre aussi de ces deux volumes, puisqu'il y en aura encore un cinquième. Ton Mort, c'est l'enfer, quoi. C'est l'Auschwitz de cette série.
Exactement, c'est ça. On peut se figurer. Enfin, Ton Mort, c'est un endroit qui se situe au nord. On l'appelle aussi actuellement le Mont-Saint-Michel. On se le représente en 2024, donc à moins 50, entre moins 30 et moins 50. C'est vrai qu'il a repris sa vocation d'après la révolution de prison. C'est à Auschwitz. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On verra, vous le verrez, enfin on le lit dans le tome 4, on sait pas trop ce qui s'y passe, on sait qu'il s'y passe des choses, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses que je laisse sous-jacentes, c'est-à-dire que chacun peut les imaginer, mais en tout cas effectivement, à lire entre les lignes, des fortes idées, des fortes idées qui nous feront rappeler la fin de la déportation, quoi. Le lieu d'objectif des déportés.
Pour que l'histoire avec un grand H ne répète pas, il faut continuer à répéter des histoires, il faut continuer à répéter certains messages, ce que vous faites bien. Mais alors, vous êtes presque pris par cette histoire aussi, puisque vous vouliez vous arrêter donc à 3 volumes. Là, finalement, pour le troisième tome, on a 2 volumes, pourrait-on dire, un 3 et un 4. Et donc, il y en a un cinquième en préparation qui parlera quoi, celui-ci ? Pourquoi l'utilité d'en faire encore un ?
Parce que l'actualité me nourrit complètement, nourrit les mange-rêves. On pourrait en écrire actuellement, on pourrait en écrire des paquets de pages. Hein. Cependant, je veux pas faire des mange-rêves une série qui s'éternisera dans le temps et puis qui va lasser les gens. Par contre, tant qu'il y a de l'actualité, que cette actualité-là rentre complètement dans le récit et qu'elle me nourrit là, parce qu'en ce moment, ce qui se prépare, c'est énorme. Donc effectivement, il y aura quelques mange-rêves de plus. Alors pourquoi c'est pas resté une trilogie ? Pour la même raison, c'est-à-dire que l'éditeur m'a dit mais attends, c'est stupide de l'arrêter à 3 alors qu'il y a encore des tas de choses qui se passent. Donc on a défini de faire un premier cycle qui s'est terminé en 4 tomes et on va repartir sur la suite de l'histoire mais avec des choses bien différentes. Je peux pas trop révéler ça parce que c'est moins marrant si on les lit après, mais ouais, tout à fait, il y aura d'autres tomes, ça c'est évident, parce que de toute façon l'histoire n'est pas finie. Je veux dire, l'histoire qu'on vit aujourd'hui et qui va se projeter sur demain, elle n'est pas terminée.
Ce qui est important aussi de signaler, c'est que donc on est dans du suspense, on est dans de l'action, mais on n'est pas seulement dans cela. On est aussi dans quelque chose qui propose des réflexions. Mais il faut le dire aussi, c'est pas des réflexions prises de tête, quoi.
Non, jamais. Et c'est justement parce que la question c'était qu'est-ce que va être le cinquième tome. Ça va plutôt être un bouquin intermédiaire, c'est-à-dire un livre dans lequel il y aura pas trop d'action. J'ai envie de le positionner comme ça, un livre de réflexion. Un livre de réflexion sur, voilà, on a vécu ça, maintenant, vers où on va, qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir le gérer. Et ça sera beaucoup vu par les ados eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on aura très peu d'interventions d'adultes dans le livre. Ça va être un album beaucoup plus posé. Alors, ça va sans doute ennuyer les gens qui aiment l'action, mais ça va peut-être aussi leur faire se poser les questions qu'il faut. Maintenant, je suis pas là pour, je suis pas le grand prédicateur, je suis pas le grand moraliste, mais j'ai envie de dire des choses qui me tiennent à cœur. Et je pense que avec le travail qu'on fait, quand on est artiste, écrivain, musicien ou peintre, je crois que, je sais pas, moi j'ai le rappel de John Lennon, j'ai le rappel de Peter Garrett, le chanteur leader de Midnight Oil, le chanteur charismatique de Ange, Christian Descamps, qui d'ailleurs préface le troisième tome. C'est des gens qui sont engagés. Et moi j'ai pas envie d'être caché derrière mon petit bouquin, écrire des trucs en me disant « Oh là là, ça va pas bien, mais il faut pas que j'en parle parce que je vais me faire mal voir, je m'en fous ». Je pense que demain, je veux dire, heureusement qu'il y a des années avant nous, il y a des gens qui ont tiré ces sonnettes-là. Il y a des gens avant nous qui se sont battus pour obtenir ce dont on a bénéficié nous, c'est-à-dire de la sécu, de la retraite, etc. Tout ça, c'est en train de se barrer. Et je me demande qu'est-ce qu'on va laisser à nos ados, sinon l'obligation d'avoir à rebâtir tout ça. Mais quelque part, c'est bien. Parce que nous, on aura consommé bêtement, eux aussi. Et quelque part, ils sont aussi responsables de ce... Parce qu'en fait, il y a plein d'ados qui ont 18 ans et qui n'ont pas voté aux dernières régionales et qui n'ont pas non plus voté il y a quelques années au niveau des présidentielles. Et ces gens-là sont responsables. Et moi, j'appelle au vote. Parce que, en fait, les mangerefs sont arrivés parce que les gens n'ont pas voté. Et donc, on revient un petit peu en arrière à 2002.
Et dans le tome 5, ça serait peut-être aussi lié à une sorte de discussion que vous mettez en place avec vos lecteurs. Je suppose que vous avez des retours de vos lecteurs adolescents comme des lecteurs adultes. Il y en a de plus en plus aussi des lecteurs adultes. Hein. Et ils peuvent aussi vous contacter. C'est toujours sur MySpace.
Ouais, ou directement les.mangerev2024 en chiffres. C'est les.mangerev tout attaché au singulier 2024@free.fr. Et j'ai effectivement, ou par MySpace, le MySpace Mangerev aussi, j'ai énormément de courriers de lecteurs. Ouais. Et c'est génial parce que là encore, je m'aperçois que je suis pas le seul à penser ce que j'écris. Et c'est assez réconfortant quand même.
Et donc en même temps, ça veut dire que vous réconfortez des lecteurs et que bah, c'est toujours par, notamment par l'écrit, peut-être plus encore que par d'autres formes de d'autres médias artistiques, pourrait-on dire, qu'on arrive à donner une bouffée d'oxygène et c'est vrai qu'on en a besoin.
Ouais, mais moi je pense qu'il faut le faire aussi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas lecteurs et je pense que les artistes musicaux ou chanteurs, ont cette responsabilité-là. Je veux dire, je parlais de Lennon tout à l'heure qu'on retrouve dans le tome 3, on retrouve aussi Rammstein, on retrouve aussi beaucoup de notes musicales. C'est des gens qui ont des choses à dire et qui le disent et moi je pense qu'il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Tout le monde est transi, je vais perdre mon boulot, je vais perdre ci, je vais perdre ça, je vais me faire casser. À un moment donné, il faut arrêter quoi, parce qu'on est quand même dans une démocratie, il faut quand même s'en rappeler. Alors évidemment, c'est facile d'aller critiquer les pays à côté où la démocratie n'a pas sa place, etc. Mais là, on est dans une France, une Europe carrément transie où il se passe des choses énormes et tout le monde se tait. Et moi, ça me choque vraiment profondément.
Et je vous souhaite de continuer à parler par la plume, voire autrement, mais continuer.
Ouais, si je suis pas assassiné.
Allez, bonne continuation, Jean-Luc.
Merci, Laurent.